Bonjour, bienvenue à Sans détour avec Élisabeth Pellerin. Cette semaine à l'émission, on reçoit notre chroniqueur de bien-être, Julie Châtain. On reçoit également Anne-Renée Thibault, la directrice générale de chez Parasport Québec. Et Linda Gauthier, cofondatrice et porte-parole du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC. On commence l'émission avec notre chroniqueuse, Julie Châtain. Bonjour, Julie.
Bonjour, Isabelle.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va, merci. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est vraiment important, surtout avec les tempêtes et l'hiver là, qui semblent ne pas vouloir se terminer.
Mm-hmm.
Donc, on parle de trouver sa zone de recharge.
Exact. Donc, de se ressourcer. Puis en fait, moi, ce que j'avais envie, c'est premièrement de vous dire, ben, est-ce que aujourd'hui vous avez pris le temps de vous recharger? Tu sais, c'est comme une question, des fois, on est dans le flow, on prend pas vraiment le temps, mais juste de dire, j'ai-tu pris une petite pause aujourd'hui où déjà on est rendu on finit l'avant-midi, puis on se sent déjà un peu comme essoufflé, là, tu sais, qu'on est fatigué de notre journée. Parce que ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a un sondage récent de l'Association de santé publique du Québec. Et parmi la population active, on voit qu'il y a quand même 48% qui souhaitent ralentir leur rythme de vie. Et il y a près de 2 personnes sur 5 qui risquent de se rendre à l'épuisement professionnel s'ils gardent le même rythme. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire, ben OK, je vais prendre le temps de ralentir, mais qu'en fait, c'est légitime et c'est vraiment nécessaire.
Bien, c'est nécessaire, en fait, de se donner le droit de ralentir aussi là, dans une société où on dirait qu'il faut toujours performer.
Bien, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment de dire, bien, OK, moi, je sais que finalement, si je ne prends pas de pause, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon cerveau parce qu'on a l'impression qu'on doit rouler constamment, mais quand on ne prend pas de pause, notre cerveau, il devient en... C'est comme si notre cerveau devient prisonnier de l'urgence, une espèce d'hypervigilance. Ça veut dire que là, à ce moment-là, mais là, on peut devenir plus rigide, plus impatient, plus stressé. On peut même être un petit peu plus irritable. Et ça, c'est parce que notre cerveau, on le met jamais sur pause.
Effectivement, on prend pas vraiment le temps de s'arrêter. Puis ça fait qu'on est tout le temps dans un état de stress là, constant.
Oui, constant. On est tout le temps dans nos préoccupations à venir. Donc, on n'est pas vraiment dans le moment présent. Puis, accorder de l'importance aux choses qui nous font du bien, c'est établir des priorités, c'est faire de la place aussi à l'humour, passer du temps avec les gens qu'on aime, faire des activités qui nous apportent du bien-être. Tu sais, d'essayer de penser que toutes ces petites choses-là, ça va nous permettre de nous ressourcer et de ralentir. Puis il y a quelques petites activités, puis moi, je suis le mouvement Santé Québec, Santé mentale Québec, excusez-moi, et il y a quelques activités qu'on peut prendre sur leur site Internet pour nous inspirer à nous ressourcer. Je trouvais ça super intéressant. Tu sais, on va avoir, exemple, le dé de la pause. C'est ça, là, c'est vraiment là juste comme un petit jeu qui est sélectionné au hasard, ça nous fait une petite proposition d'activité, ça nous donne un petit 5 minutes de pause. Tu sais, des fois, on sait pas trop qu'est-ce que je vais faire. On s'en va sur le site Internet Mouvement Santé Québec, on va voir dans les petites activités, puis il y a le dé de la pause. Et comme ça, puis je l'ai fait, puis je trouve que c'est comme à un moment donné, un petit casse-tête, ou ça dure vraiment pas longtemps. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est vraiment explorer nos 5 sens. Ça, j'en ai parlé vraiment souvent, puis dans mes différentes chroniques. Mais c'est que souvent, on prend pas le temps, c'est de porter attention aux sensations que les sens vont déclencher dans notre corps. Fait que ça soit juste de prendre le temps de respirer, puis de se rendre compte qu'on est en train de respirer quelque chose qui nous fait du bien. Que ça soit de dire, je vais aller juste connecter dans mon corps. Comment je me sens? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que j'ai besoin de me lever debout, de faire des étirements? Tu sais, des petites choses comme ça, de goûter, et tout d'un coup, là, c'est bientôt l'heure du dîner pour plusieurs. Il y en a qui sont déjà en train de dîner, mais juste de prendre le temps de savourer qu'est-ce qu'on est en train de manger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi, puis c'est simple, ça ne demande pas beaucoup de temps. Une autre chose que je trouvais vraiment intéressante, c'est que sur le site, on peut trouver différentes siestes.
Ah, ça, j'aime ça, les siestes, moi.
Oui, mais...
Là, tu m'as avec un mot sieste,
de sieste, hein? Mais là, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a vraiment différents temps de sieste et ça va être bénéfique pas pour les mêmes raisons. Comme je donne un exemple. Ça, on va faire une sieste qui va stimuler l'énergie et la vigilance. Bien, ça va durer amplement, donc sa durée, elle va être amplement efficace pour nous ressourcer entre deux tâches. Puis, ce qu'on voit sur le site, c'est qu'ils vont vraiment nous dire « Ah, oh, tiens, fais une petite sieste de 15 minutes si tu as besoin de ça. Si tu as besoin de faire une sieste pour récupérer parce que tu n'as pas bien dormi cette nuit, fais une sieste de tant de temps. » Ça, je trouvais ça super intéressant. Il y a même des fois des siestes qu'on peut faire, ça nous permet de récupérer 2 heures de sommeil qu'on a perdu.
2 heures de sommeil, c'est beaucoup.
C'est énorme. C'est vraiment énorme. Tu sais, si on sait qu'on a fait un peu d'insomnie, là, c'est combien la sieste qu'on devrait prendre pendant la journée suivante. Il y a aussi, évidemment, l'appel à la consommation. Donc, on voit que dans notre société, il y a des messages publicitaires de sources diverses qui vont nous solliciter de 500 à 2000 fois en moyenne par jour. Ça, c'est une invitation à consommer, peu importe, là, tu sais, sur notre téléphone, on écoute la télé, tu sais, tout ça, là, on va être stimulé par plein de trucs qui vont être, et ça va surstimuler notre cerveau constamment parce que là, on a des messages de « Ah oui, c'est vrai, j'ai besoin d'avoir du brocoli parce que le brocoli est en spécial à telle place. » Ça nous amène à être constamment en finalement une hypervigilance et c'est pas très bon pour le cerveau. Tandis que quand on ralentit, ben là, tout d'un coup, on se déconnecte de toutes ces petites choses-là. Donc, est-ce que ça m'a... En fait, c'est comme de faire un pas de recul, finalement. Ça aide après ça à faire des meilleurs choix.
Ça aide aussi à prendre une pause puis à se questionner sur notre consommation.
Oui, c'est ça, exactement. Puis on le voit, évidemment, par rapport au travail. Est-ce qu'on est capable de courir? Ça, je trouve ça intéressant aussi. Est-ce qu'on est capable de courir un marathon? Est-ce que tout le monde là ici là qui écoute là peut dire « Ah, ben oui, hein, on peut courir un marathon à raison de 36 heures par semaine pendant 35 ans sans jamais arrêter de courir? » Évidemment, tout le monde va dire « Non, mais non, c'est pas possible. » Bien, pour éviter le surmenage et augmenter notre pensée créative, bien, c'est pour ça qu'on recommande au contraire de faire des ruptures de rythme dans notre travail. Ça va nous permettre de décompresser. Puis il y a vraiment 3 types de pauses. Il y a physique, psychique, sociale. Donc physique, bien, ça le dit. Hein, on repose notre corps physique. Psychique, c'est tout au niveau des pensées, de ralentir au niveau de notre cerveau. Et social, ben c'est de sortir des fois aussi de s'éloigner des gens, tu sais, de vraiment dire hey, je suis surstimulée, il y a beaucoup trop de gens autour de moi, je vais prendre une pause toute seule, moi avec moi. Donc c'est pour ça que ça, je trouvais ça aussi super intéressant de voir, tu sais, finalement en ce moment, c'est quoi j'ai plus besoin? Tu sais, j'ai plus besoin d'aller marcher toute seule, tu sais, d'aller connecter avec ce que je vois, ce que je ressens, ce qui se passe. Dans mon corps, ah, ben ça, c'est une pause un petit peu plus mentale. T'sais, ça va m'aider à oublier ce qui se passe dans mon quotidien. Ben, je trouvais ça bien intéressant de faire ça.
Oui, c'est intéressant, en fait, de prendre un moment pour se demander de quoi on a besoin.
C'est ça. C'est vraiment ça. En fait, c'est ça la question première, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin. Et je trouvais important d'en parler à ce moment-ci parce que ben, le 13 mars, c'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et lors de cette journée, ben, ça a été initié par Mouvement Santé Mentale Québec. Je vous parlais, où est-ce qu'il y a le site Internet que vous pouvez suivre, où est-ce qu'il y a tellement de pistes qu'on peut suivre pour avoir différents outils. Et eux, cette année, ils ont mis l'emphase sur se ressourcer. Donc, leur prochain, je veux dire, tout ce qui va être pour la prochaine année, jusqu'au prochain 13 mars, c'est en lien avec se ressourcer. Et là, on va voir là qu'il va y avoir une activité qui va être animée. Seulement le 13 mars, ça va être animé par Debbie Lynch White, qui est porte-parole. Et là, dans la matinée, ben il va y avoir des conférences, il va y avoir différents professionnels, ils vont nous présenter des outils qui vont nous aider, des recherches, des réflexions. C'est de 9h à midi. C'est à la Maison du développement durable à Montréal, si on veut se déplacer. Sinon, c'est en ligne.
Et on peut s'inscrire. Oui, c'est gratuit. On peut s'inscrire donc sur le site Internet de Mouvement Santé Mentale Québec. Et même si on ne veut pas s'inscrire cette journée-là, là, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller voir quand même le site parce qu'il y a quand même des outils très intéressants.
Oui, vraiment, vraiment. Moi, c'est un outil que je suis abonnée à l'infolettre. Fait qu'à tout bout de champ, là, je reçois plein d'informations. Puis moi, je trouve ça tellement important parce que je trouve que la santé mentale, oui, on en parle beaucoup, mais en même temps, on dirait qu'on n'en parle pas assez.
On en parle de plus en plus, mais il y a encore du travail à faire.
Bien, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu sais, puis je pense que si chaque personne, personnellement, nous, avec nous, on se pose la question, bien, je pense qu'on peut améliorer, tu sais, tranquillement notre quotidien.
Et c'est important parce que, dans le fond, plus on prend soin de soi, plus on arrive à être efficace avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis et à l'emploi également.
Exactement, parce que tout ça, c'est interrelié. Donc, c'est pour ça. Puis moi, j'ai vraiment envie de dire aux auditeurs et aux auditrices de penser à l'image du marathon. C'est de dire, « Hey, je pourrais-tu courir un marathon comme non-stop, là? Jamais, jamais, jamais arrêté. » Ben, c'est un peu ça, finalement, qu'on inflige à notre cerveau. Donc, pour ça que je trouvais que l'image était très parlante.
Oui, c'est vrai. Je vais penser au marathon là, cette semaine,
oui.
Julie.
Ben oui, c'est ça, de dire, « Hey, hein, peut-être que je pourrais, au lieu de faire un marathon, faire, tu sais, des fois un petit sprint, après ça, arrêter, recommencer un petit sprint, mais pas être constamment en train de courir. »
C'est important de prendre soin de soi parce qu'éventuellement, ça nous rattrape, là, malheureusement.
Oui, c'est ça, exactement.
Julie, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, ça a été un grand plaisir, comme à chaque fois.
On se retrouve bientôt. C'était Julie Chartien, notre chroniqueur en bien-être. Et après la pause, nous, on retrouve Anne-Marie Thibault, directrice générale chez Parasport Québec. Restez avec nous. Thank you. pas besoin.
Excuse-moi, Lisanne.
Je savais pas que j'étais en nombre, Mathieu.
Non, mais j'ai été un peu trop rapide. J'ai mal interprété ton signe de tête.
C'est moi qui bouge trop de tête. Bon, donc, allons-y maintenant avec Anne-Renée Thibault, directrice générale chez Parasport Québec. Bonjour, Madame Thibault.
Bonjour.
Donc, vous nous parlez cette semaine de sport adapté, bien sûr, mais d'abord, parlez-moi de Parasport Québec, votre organisme.
En fait, Parasport Québec, c'est un organisme de régie de sport. Chez nous, on en a 7 différents. On a le basketball en fauteuil roulant, le tennis, le curling, le power chess soccer. On a aussi le para-athlétisme. J'en oublie sûrement un, le rugby en fauteuil roulant. Et donc, c'est ça, on a 7 disciplines qu'on encadre là, de l'initiation jusqu'au développement. Là, puis on encadre aussi les athlètes pour aller vers les plus hauts niveaux. Et on a aussi un programme qui s'appelle Au-delà des limites. Puis ce programme-là, on travaille en collaboration avec toutes les fédérations sportives qui, eux, ont leur sport, leur parasport inclus dans leur ou intégré dans leur fédération pour faciliter le développement puis l'accès au sport partout au Québec.
Et c'est Parasport Québec, vous êtes dans quelle région?
Nos bureaux sont à Montréal.
Donc, vous faites de l'accompagnement là, dans la grande région de Montréal, c'est ce que je comprends?
Non, c'est vraiment Parasport Québec, le fait qu'on est vraiment au niveau provincial.
Dans tout le Québec, parfait.
Oui, nos bureaux sont à Montréal, mais on est beaucoup, beaucoup sur la route là, pour visiter le maximum de régions qu'on peut.
Et on parle de sport adapté et il y a un engouement là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, même dans les dernières années par rapport au sport adapté. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet engouement-là?
Bien, en fait, je pense que on a commencé à réussir à travailler plus proche avec la communauté pour faire connaître les sports puis les rendre un petit peu plus accessibles. Le travail est vraiment pas terminé, là. Mais on voit que l'effort qu'on y met à rejoindre les gens, à avoir une meilleure offre de services, porte fruit. Ce qui veut donc dire, c'est qu'il y a une réelle demande pour nos activités.
Il y a vraiment une demande, vous l'avez dit, donc il y a du travail à faire au niveau de l'accessibilité. Et j'en parlais la semaine dernière, parce qu'il y a un article qui est sorti dans la presse qui parle en fait justement des défis d'accessibilité du sport adapté, entre autres à cause des coûts.
Oui. C'est sûr que c'est un des gros enjeux de nos sports. C'est que, de un, l'équipement est quand même assez coûteux, puis vu sa rareté en plus, on fait face à ce défi-là continuellement. La plupart de nos sports nécessitent justement de l'équipement spécialisé. Là. Fait que ça fait vraiment partie du grand défi pour donner l'accès à un maximum de personnes. On a besoin d'avoir plus d'équipement à partager. Là.
Parce que la plupart des sports, par exemple, là, se jouent avec un fauteuil qui est adapté. Et donc, dans le cas, par exemple, de fauteuil, on parle de plusieurs milliers de dollars là, pour être capable d'avoir un fauteuil qui est adapté au sport là, et être capable de jouer à des hauts niveaux.
Oui. En fait, là où on a quand même une longueur d'avance, c'est qu'on a réussi avec le temps, puis on a plusieurs programmes au Québec qui nous permettent d'acheter de l'équipement qu'on va partager avec des groupes. À ce niveau-là, on réussit quand même à répondre à un certain niveau de demande. Mais effectivement, à partir du moment où une personne devient un peu plus sérieuse dans son sport ou veut en faire de plus haut niveau, ben effectivement, assez rapidement, pour optimiser sa performance, la personne va devoir avoir un fauteuil qui est beaucoup plus ajusté pour lui ou elle.
Parce que quand on parle de sport de haut niveau, on parle de s'entraîner à tous les jours. Donc, ça prend évidemment un fauteuil qui est adapté à nos besoins, qui est ajusté à nos besoins, puis auquel on a accès à tous les jours.
Ah, oh, absolument, absolument. Puis même, je dirais que même quelqu'un qui commence à s'entraîner régulièrement, mais même pas à tous les jours, va avoir ce besoin-là assez rapidement. Là.
Et donc ça cause problème parce qu'évidemment, ces fauteuils-là sont à la charge des personnes en situation de handicap, mais également, on parlait dans l'article des problèmes au niveau du transport, là, ce qu'on pourrait peut-être ne pas voir comme étant un défi de prime abord, mais c'est une réalité là, pour les athlètes, et pour les personnes qui désirent faire du sport. Il faut se rendre à l'endroit où le sport est disponible.
Absolument, absolument. Puis ça, c'est vraiment, on commence par parler de l'équipement, mais effectivement, assez rapidement, on se rend compte que il faut s'assurer que, de un, les transports soient disponibles, mais en plus, si un maximum de l'infrastructure était accessible, ben les transports seraient au moins diminués parce que les gens auraient accès à des plateaux sportifs plus près de chez eux. Fait que là, malheureusement, vu aussi la rareté de l'accessibilité, ben on se rend compte qu'il faut se déplacer un petit peu plus loin pour trouver une place où on peut s'entraîner puis participer.
Parce qu'effectivement, il y a un défi donc à deux niveaux. Premièrement, les places où on offre du sport adapté sont rares, donc dans les grandes régions de Montréal, de Québec, mais pour les gens qui viennent de régions un peu plus éloignées, il faut se déplacer vers ces centres-là. Et l'autre jour, on en a parlé la semaine dernière, on va en reparler cette semaine avec la prochaine invitée, c'est que le transport adapté a des limites importantes. Donc, pour les gens qui ont besoin d'un transport adapté pour se déplacer, assez avec leur équipement, avec un fauteuil roulant, par exemple, ça devient extrêmement difficile.
Ah, oh, absolument, absolument. On le voit très bien. C'est sûr que dans nos sports, on essaie de le faciliter au maximum, mais ça demeure, là, on est très conscient que ça fait partie des enjeux. Puis on est en mode recherche de solutions, effectivement, là, pour...
Et quelles sont les solutions? À quoi on pense comme solution? Je sais que, bon, c'est pas vous qui avez nécessairement toutes les réponses, ni toutes les décisions, là. C'est pas vous qui les prenez toutes, mais à quoi on pense quand on veut avoir des solutions? À quoi vous avez pensé?
Bien, c'est sûr que, tu sais, comme présentement, là, c'est un peu inquiétant de voir que, là, je peux parler pour Montréal, là, on voit que les transports adaptés vont peut-être être diminués ou envoyés vers des compagnies privées. Ouais.
Oui, on en parle après la pause avec notre prochaine invitée. Ça, effectivement, c'est un enjeu important. Et bon, il y a toutes sortes d'enjeux à Montréal avec les transports adaptés. On pourrait en parler longtemps. Fait que ça, évidemment, ça vous inquiète. Non?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis là, c'est sûr que là, c'est juste une région. Puis on est conscient que dans la plupart des régions, il y a ces mêmes enjeux-là. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas de solution miracle présentement, puis on cherche vraiment, de notre côté, on essaie d'avoir peut-être plus de véhicules pour au moins aider un peu certains transports. Mais après ça, je pense qu'une des bonnes alternative, comme je disais, c'est qu'en limitant la distance, en ayant plus de plateaux sportifs accessibles, ben, je pense qu'on pourrait du moins aider cette situation-là.
Oui, mais bon, ça, c'est un défi plus à long terme, parce qu'ouvrir des plateaux, ça prend quand même plusieurs années, mais tout de même, on est conscient de l'enjeu chez vous, puis vous réfléchissez à une façon de pouvoir faire les choses pour faciliter le quotidien de vos athlètes.
Oui, mais on est vraiment en mode réflexion. Là. On n'a pas d'énormes pistes là, présentement.
On vous souhaite une bonne chance dans la réflexion, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un grand merci.
Bonne journée. Après la pause, on se retrouve à parler justement de transport adapté qui a annoncé des coupures. On revient donc avec Mme Linda Gauthier, qui est cofondatrice et porte-parole du regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec, le RAPLIC. Bonjour, Mme Gauthier.
Oui, bonjour. Merci de m'inviter.
Ça nous fait plaisir et on en parlait il y a quelques minutes avec notre invitée précédente, le transport adapté de Montréal et STM, donc qui, encore une fois, là, inquiète les organismes communautaires parce qu'ils ont annoncé donc le transfert d'ici 2026 de son service de minibus pour les personnes en situation d'handicap.
Mm-hmm, exactement.
Ils vont donc se tourner vers des modèles de taxi collectif, donc vers le privé finalement, là, pour vers le privé à l'externe, devrais-je dire, là, pour les minibus du transport adapté, ce qui cause des inquiétudes, là, entre autres, à plusieurs organismes, mais aussi à votre organisme, à vous, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Vous avez fait partie d'un article de journal là, qui soulevait ces inquiétudes.
Oui, en fait, nous, les inquiétudes se situent pas nécessairement au niveau de la prise en charge, parce que on sait que déjà, je pense qu'il y a commencé à avoir des achats de la part des compagnies de taxi, des intermédiaires de taxi, qui ont commencé à acheter des minibus, en tout cas, ils ont fait des appels d'offres, là. Ça ne faisait pas des appels d'offres, mais des offres d'achat sur les minibus de la STM pour que, quand le service sera interrompu de la part de la STM, ces bus-là seront repatriés, ni plus ni moins, vers les compagnies de taxi. Fait que ça, je suis pas tellement inquiète par rapport à ça. Nous, on l'a su de la part de, comme les autres organismes, de la part de M. Ahmed Bouamida, qui est le directeur général du transport adapté à la STM. Notre préoccupation, on rappelait que se situe plus au niveau de la formation. Parce que les chauffeurs on ne sait pas, là, ça va être probablement des chauffeurs qui ont la classe, je pense que c'est la classe 4 sur le permis de conduire, qui seront en mesure de conduire ces minibus-là. À date, là, ont à peu près 8 heures d'entraînement, de formation pour véhiculer des personnes handicapées. Fait que s'ils n'ont pas une formation additionnelle, puis je parle pas pour conduire le véhicule, mais je parle
pour donner un service, oui.
Voilà, l'interaction avec les personnes handicapées, c'est là que ça risque de se gâter. Quand c'est des vieux de la vieille, ni plus ni moins, il y a des hommes ou des femmes d'expérience, ben ça peut aller. Mais quand c'est en bas de 2 ans, 1 an, là, je vais être large d'esprit. On dirait qu'il n'y a pas la même conscientisation. On ne nous traite pas de la même façon.
Puis déjà, on le voit à STM, là, parce que 90% des transports de STM sont déjà faits par des taxis. Donc, des gens qui ne sont pas nécessairement beaucoup formés avec les personnes en situation de handicap, là, parce que ces gens-là font du taxi là, avec monsieur et madame tout le monde et prennent des personnes en situation de handicap en surplus là, de leur travail. Donc, on le voit là, que des problèmes au niveau de la formation de ces gens-là, on a parlé encore il y a la semaine dernière, la formation est inadéquate, la façon de s'adresser aux personnes en situation d'handicap est inadéquate également et ça cause ben, des problèmes au niveau du service déjà. Donc, ça risque de s'accentuer avec le fait que les minibus ça ne soient plus à la charge de la STM.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous dire, quand on dit que ces personnes-là travaillent avec monsieur et madame tout le monde, oui. Mais pour les anciens chauffeurs, ceux qui sont là depuis de nombreuses années, il en reste encore beaucoup. Ben c'est à l'époque, OK, quand moi j'ai commencé aux répliques, ces hommes, particulièrement plus les hommes que les femmes, là, avaient besoin d'un permis restreint à l'époque. Okay? C'est-à-dire que ces permis-là ne leur permettaient pas de faire d'autres clientèles que des personnes handicapées. Donc, ils sont habitués depuis à peu près une vingtaine d'années avec des personnes handicapées. Donc, le manque de formation conventionnelle qu'ils n'ont pas eu nécessairement, ils l'ont appris sur le terrain.
Oui, oui, je comprends.
Alors, puis est vraiment adéquat. Là. C'est des hommes qui prennent bien soin, puis, tu sais, je veux dire, ils vont... Puis, écoutez, moi je me gêne pas de leur dire poliment. Évidemment, quand il y a quelque chose qui est pas correct, on leur dit. Fait que je suis pas d'accord pour dire que, oui, c'est vrai maintenant, l'abolition des permis restreints, c'est bien installé, ils peuvent faire tous les clients. Sauf que généralement, ils ont des feuilles de route.
ils sont assignés sur des dossiers avec la STM. Ils ont des contrats à respecter quand même. Fait que plusieurs d'entre eux ont même plus le temps d'en prendre ailleurs de la clientèle.
Oui.
Tu sais, je veux dire, faut faire un peu la part des choses aussi, là. Je veux pas condamner le geste de la STM totalement, mais c'est clair que ça surprend. Puis ça fait peur aux particuliers. Mais pourtant, il nous a tous rencontrés les organismes. Et puis, il faudrait pas sauter trop vite aux conclusions non plus. Faut quand même, je pense, donner une chance. Ça peut être une très bonne chose aussi.
Oui, ben en fait, ça peut, ça pourrait donner un service aussi qui est tout à fait adéquat dans l'optique où la formation et où la transition serait faite de façon convenable, là, puis que ce soit réfléchi.
Tout à fait, vous avez raison. Où le bas a blessé aussi, c'est que la SNM a commencé, puis la mairesse aussi, de donner des gratuités aux personnes qui n'en ont pas vraiment nécessairement besoin. Les personnes de 65 ans et plus, j'admets qu'il y en a qui sont vraiment sous le seuil de la pauvreté, particulièrement celles qui sont en situation de handicap. Mais il y a des personnes aînées là, qui sont en masse capables là, de payer leur passage. Je pense que ça avait été à la place de dire toutes les personnes handicapées, OK, là, on leur donne une gratuité. Tu sais, la mairesse a fait ça d'une façon assez, je sais pas, là, irréfléchie, je dirais. Puis, en ce qui concerne la STM, ben, il n'y a pas de lecteur de cartes Opus dans les minibus et les taxis. Fait que, bien, souvent, les cartes sont pas chargées. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont à presque 100 millions dans le trou, là, si on prend ce qu'ils disent, bien évidemment. Tu sais, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui de privatiser le système si ça avait été fait autrement.
Oui, mais peut-être qu'il y a eu un manque de suivi, effectivement, mm-hmm. au niveau des abonnements, au niveau des paiements, puis au niveau de toute cette gestion-là, là, parce qu'effectivement, ils n'ont pas moyen de vérifier dans les taxis là, si ça a bien été payé ou pas. Et on ne pense pas à une mesure, du moins, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une mesure qui serait réfléchie par rapport à ça là, dans les prochaines années. Donc, c'est peut-être toute une mentalité, un suivi qui est à revoir puis à réfléchir. Là.
Exactement, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, madame.
Et puis, qu'est-ce que... tu sais, vous parliez de la formation qui est primordiale, vous parliez du besoin de services de qualité, mais est-ce que il va y avoir des actions dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de la part des organismes là, pour essayer de faire un suivi de ce transfert-là?
Bien, nous, on a déjà proposé au RAPLIC de faire la formation avec la STM. Quand il y aura des formations de chauffeurs, puis qu'il faudrait que ça devienne obligatoire, là, entre 8 heures puis le 3 semaines, il faudrait qu'il y ait un juste milieu en quelque part. Là. Ben, tu sais que ça. Mais ça, il faut comprendre que eux autres, ce sont des travailleurs autonomes, hein, les chauffeurs de taxi. Puis ça serait la même chose pour les chauffeurs de minibus. C'est pas des employés, donc ils le prennent sur leur temps quand ils vont faire de la formation. Ben, qu'il y ait un fonds dédié à ça, premièrement.
Oui, ça serait une bonne idée. Hein.
Qu'il y ait un fonds dédié de la part des compagnies de taxi. Puis cette formation-là, ben, que ça soit nous, que ça soit un autre organisme qui participe à la formation. Nous, on a déjà participé à quelques-unes là, de la STM. Et puis je pense qu'Execo l'avait déjà fait à l'époque aussi, du temps que Marie était sur le conseil d'administration de la STM. Écoutez, qui de mieux que les experts du handicap, ben, c'est les personnes handicapées. Fait que je pense qu'ils peuvent bien transmettre leurs besoins, puis que ça vienne autant des compagnies de taxi, de la STM, ça prend quand même des personnes handicapées qui vont aider à former.
Oui, et malheureusement, souvent, c'est oublié là, dans le sens où on vous demande pas votre avis nécessairement, et on fait les choses, puis on vous met au courant une fois la finalité.
La plupart du temps.
Oui, la plupart du temps, dans plusieurs dossiers, d'ailleurs, pas juste dans les dossiers de STM. Et effectivement, vous le dites bien, donc, que la formation soit donnée par des personnes qui sont en situation de handicap ou par des organismes qui ont la formation adéquate et expertise adéquate, ça fait toute la différence.
Tout à fait. Et on serait rendu un petit peu plus loin, je pense, dans l'inclusion sociale si tout le monde y pensait de cette façon-là, je pense. C'est pas pour se prétendre. On se prétend pas des ingénieurs, on se prétend pas des architectes, sauf que bien souvent, je pense qu'on pourrait grandement améliorer les choses si on nous consultait, puis on suivait évidemment nos conseils, parce que c'est bien beau de nous consulter, mais s'ils font leur tête...
Oui, des fois, on les voit consulter pour l'image que ça donne, de vous dire oui, on a consulté, mais dans les faits, on a consulté sans vraiment écouter. Hein.
Exactement.
Ça aussi, on voit ça dans les dernières années. C'est comme à la mode maintenant de consulter, ce qui est une très bonne chose. Mais des fois, on consulte pour le fait de le faire, hein, pour dire qu'on le fait, mais on n'écoute pas du tout. Hein.
Exactement. J'ose espérer que la STM puis les 14 ou 15 intermédiaires de taxi vont écouter votre émission.
Je sais pas. Écoutez, on les appellera à la fin de l'émission, on verra. Mais du moins, je pense que et dans mon émission et dans d'autres, dans toutes sortes d'autres médias, on en a parlé beaucoup là. Et la semaine dernière, on va en parler encore cette semaine. Mm-hmm. J'espère que le message se rend là.
Oui, on le souhaite, mais c'est par des personnes comme vous, puis par vues et voix, qu'on c'est la courroie de transmission hein, vers la société en général et la communauté des personnes handicapées. Fait qu'on vous remercie beaucoup de nous donner cette tribune-là pour être en mesure d'expliquer nos besoins.
Bien, ça nous fait plaisir, hein. C'est dans notre mission de faire ça. Puis évidemment, là, en tant que citoyen, citoyenne, on est nous aussi touchés par ce type d'enjeu-là. Donc, effectivement, on espère que tout le monde soit capable de tirer son épingle du jeu puis que ce soit positif pour tout le monde, que ce soit bien fait pour une fois, dans l'optique qu'on ne soit pas en train de ramasser et pas casser par la suite parce que ça a été fait à va vite. Mais, comme vous le dites si bien, on va laisser aussi la chance à STM de faire les choses adéquatement. Peut-être que ça va très bien se passer. On espère qu'on a des inquiétudes qui ne seront pas révélées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
C'est ça. On souhaite que d'ici quelques années, on se dise on comprend pas pourquoi ils l'ont pas fait avant.
Oui, on n'est pas pour rien finalement.
Exactement.
Je vous le souhaite, je nous le souhaite, mais on verra ça, bon, c'est ça, dans les prochains mois, dans les prochaines années. D'ici ce temps-là, on va essayer de se préparer au mieux. Pour être capable de suivre la situation puis d'être présent pour répondre aux besoins et d'offrir, comme vous le faites, d'offrir du soutien s'ils veulent bien prendre ce soutien-là. Là.
Oui, absolument. On sera toujours là pour aider. Puis il faut pas se laisser faire. Hein. S'il y a quelque chose qui va pas bien, il faut dénoncer. C'est la seule façon qu'eux vont être en mesure de savoir que ça va pas.
Effectivement, peut-être que le nombre de dénonciations n'est pas assez important en comparaison du moins au nombre d'incidents qui se passent dans les transports de thé. Hein. J'imagine que la plupart des gens ne dénoncent pas parce que ça devient presque habituel, presque banal d'avoir un mauvais service.
C'est ça,
Mais effectivement, vous faites bien de souligner, il faut dénoncer parce que plus on dénonce, plus on fait de la pression pour que les choses changent puis pour que la formation soit plus adéquate.
C'est ça, exactement. Puis la peur des représailles, puis les personnes souvent qui ont une déficience intellectuelle qui sont là puis qui savent pas trop quoi faire, ils ont juste peur puis ils ont pas vraiment une voix.
Ouais, ben c'est ça aussi.
C'est ça, je trouve ça.
Des fois, on connaît pas, peut-être particulièrement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais connaissent pas leurs droits, connaissent pas leurs recours, ne savent peut-être pas même que leurs droits sont brimés parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement les droits auxquels ils ont accès. Donc, effectivement, il y a beaucoup de formation à faire. Il faut faire attention à une clientèle qui est particulièrement vulnérable au niveau des droits. Là,
comme vous dites, tout à fait. Exactement.
C'est le cas, entre autres, des personnes en situation de handicap intellectuel ou des personnes très âgés, par exemple, qui pourraient ignorer, en fait, comment s'y prendre là, quand ils veulent dénoncer une situation.
Oui, oui, absolument, absolument. Puis nous, on est là pour leur donner des formations aussi. Puis je pense que plusieurs autres organismes, dépendants de le type de handicap, sont là aussi pour former toutes les compagnies, en fait, tous les organismes, les instances qui peuvent se présenter. Mais tu sais, il faut qu'ils fassent appel à nous, bien sûr. Hein.
Oui, et vous êtes là aussi pour dénoncer la situation. Puis, tu sais, je rappelle que tout le monde peut dénoncer. Hein. Si on voit une personne qui subit un préjudice, que ce soit dans le transport adapté ou ailleurs, ça vaut la peine de dénoncer. Hein,
oui.
Parce que la personne n'est peut-être pas en mesure de le faire elle-même. Donc si on le fait, ben on s'assure que la personne d'après n'ait pas le même traitement, là.
Exactement. On le fait toujours pour la personne qui le subit là. C'est comme vous dites, pour la suite des choses aussi.
ça vaut la peine de le rappeler. Donc, il faut être vigilant de notre environnement puis être solidaire envers, particulièrement envers les personnes les plus vulnérables.
Oui, tout à fait. Un grand merci, madame, d'être là.
Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir parler avec nous là, au sujet de cette privatisation-là là, des minibus de STM. Et comme je le disais tout à l'heure, on espère que tout se passe bien. Mais en tous les cas, là, ça élève quand même des inquiétudes. Il va falloir suivre le dossier là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour être sûr que tout se fasse sans problème.
Absolument. Tout à fait.
Merci beaucoup, madame Gauthier.
Merci à vous, chère madame. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. C'était Linda Gauthier, cofondatrice et porte-parole du regroupement des activistes et de l'inclusion Québec, le RAPLIC. Après la pause, on parle de quelques nouvelles. De retour pour un survol de l'actualité. D'abord, on commence avec la carte européenne du handicap. Lancée en 2021, la stratégie européenne relative aux droits des personnes handicapées visait à renforcer l'inclusion dans l'Union européenne. Pourtant, il y a des blocages persistants. Et on a des problèmes au niveau de la mise en œuvre de la stratégie, entre autres pour la carte européenne du handicap. Il y a donc des problèmes au niveau de la mise en place. Et on a donc la commission présente une stratégie 2021-2030 qui, ma foi, ne semble pas prendre son élan comme elle le devrait. Donc, l'Union européenne a agi avec la ratification en 2011 de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap des Nations unies. Par contre, la stratégie de base affiche quatre initiatives. Une carte valage et la reconnaissance du handicap dans toute l'Union européenne. Donc, la carte dont on vous parlait dans les dernières semaines. Également, on veut améliorer l'accessibilité du monde du travail pour les personnes en situation de handicap. On veut également améliorer donc le transport au niveau des personnes en situation de handicap en Europe et aussi à faire face aux enjeux d'anti-validisme, donc de faire pression pour que le validisme, le fait donc de juger quelqu'un par rapport à ses capacités, par rapport au handicap, soit de plus en plus dénoncé et de plus en plus absente de la société, parce qu'on sait évidemment qu'il y a une bonne partie de la situation là, en Europe, comme au Québec d'ailleurs, qui va avec le fait qu'on a des préjugés et qu'on a des préjugés qu'on continue de faire valoir dans la société, ne serait-ce que dans les médias, par exemple, ou dans le monde du travail. Il y a eu quand même quelques avancées. Donc, par exemple, sur le monde du travail, on a quand même une meilleure accessibilité au travail pour les personnes en situation de handicap. Cependant, il reste quand même que le chômage pour les personnes en situation de handicap est le double en Union européenne, comme au Québec d'ailleurs, comparativement aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap. On se rappelle au Québec, en Europe, entre autres en France, il y a une loi qui dit qu'on doit avoir un certain pourcentage de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Cependant, comme on en a déjà parlé, les entreprises préfèrent payer l'amende plutôt que d'embaucher des personnes en situation de handicap. Donc ça reste, malgré une certaine avancée, ça reste un grave enjeu en Europe. Y compris peut-être le fait que les amendes ne soient pas assez salées pour permettre aux personnes en situation de handicap de faire valoir leurs droits au niveau du marché du travail. Également, donc, on parle des élections en Europe parce qu'il y a une personne en situation de handicap qui s'est fait refuser le droit de vote parce qu'elle était sous tutelle. Et ça pose évidemment tout un problème au niveau de l'accessibilité du vote pour les personnes en situation de handicap. On se demande si l'éligibilité au vote est à géométrie variable. Quelqu'un qui a voté, c'est pas quelqu'un qui a voté, c'est un candidat à l'élection législative qui a été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel en raison de placement sous la curatelle. Et on se demande, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça, évidemment, ça empêche les personnes en situation de handicap à ce moment-là de se présenter dans différents niveaux d'élection? Et ça donne un blocage supplémentaire pour les personnes en situation de handicap qui voudraient faire de la politique active et évidemment faire changer les choses pour les personnes en situation de handicap. Donc, il faut se demander si ces enjeux-là, si c'est valable de ne pas accepter quelqu'un là, qui est en situation de handicap, qui est sous curatelle, ce n'est pas de la discrimination. Finalement, si on revient au Québec, on l'a dit, il y a des problèmes au niveau des ressources intermédiaires dans les Laurentides, entre autres. Dans la province du Québec, il y a près de 5000 personnes qui sont en attente d'une pièce en ressources intermédiaires. On parle de 458 personnes en attente dans les Laurentides et de 384 personnes en attente en Estrie. Donc, évidemment, c'est énorme. Sur les 5000 personnes au Québec, on a 3300 personnes qui sont des personnes aînées. Donc, forcément, ça cause problème au niveau de l'accessibilité des résidences. Et on en parlait la semaine dernière, ça devient de plus en plus difficile pour les résidences intermédiaires de garder leurs portes ouvertes étant donné la situation, les coûts qui augmentent, et ça fait qu'il y a différentes personnes qui se retrouvent en CHSLD alors qu'ils pourraient vivre en ressources intermédiaires et c'est beaucoup plus coûteux, évidemment, là, beaucoup plus prenant au niveau de la santé mentale de ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas nécessairement au bon endroit pour répondre à leurs besoins. En terminant, il y a Julie Chartien, qui est notre chroniqueur avec laquelle on a parié un peu plus tôt à l'émission, qui a fait une entrevue dans les 7 jours et la semaine dernière. Donc, vous pouvez aller écouter ou lire cette entrevue-là avec le magazine 7 jours. Et on a le guide de sexualité et handicap dont on a parié au mois de septembre dernier à notre émission, qui est maintenant en format audio. Qui est disponible sur différentes plateformes d'écoute comme YouTube, Spotify, Apple Book, en format DZ également, à la Bibliothèque nationale. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est maintenant disponible en format audio. Et puis, on le disait, là, ce guide-là est quand même une bonne avancée là, pour l'accessibilité aux droits des personnes en situation de handicap et pour mieux connaître la réalité des personnes en situation de handicap dans le domaine de la sexualité. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller voir ce guide-là, guide de sexualité et handicap qui vient de sortir en format audio. C'est tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Merci également à Pierre Guérin à la recherche. Bonne semaine tout le monde. Faites attention dans la neige et on se revoit donc pour une autre émission de Sans détour. Bye bye.
Quotidien 5e édition.